Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée par Lucas Lazo, mais aussi Margot Léridon, Bertille Bourdon et Nicolas Sendé, réalisée par Alexandra Longuet et à la technique ce matin au Tréguélil. Second temps de notre série consacrée au monde de la compétition sportive et du sport international. Des modèles à bout de souffle, c'est la question que nous posons toute cette semaine. Et il était question, hier, de l'avenir des Jeux Olympiques et des Coupes du Monde, de plus en plus critiqués pour leurs impacts sociaux et environnementaux. Demain, mercredi, nous parlerons du racisme dans le sport et de l'engagement des athlètes. Enfin, jeudi, nous évoquerons la libération de la parole sur les violences sexuelles et le changement de regard sur le sport féminin. Mais ce matin, place à la plus populaire, mais aussi la plus dépensière des disciplines sportives, le football.
At this moment at FIFA,
en ce moment, à la FIFA, nous avons trois choses à l'esprit. D'abord, la santé. La santé doit passer en premier dans tout ce que nous faisons. La deuxième est de voir comment nous pouvons aider au mieux la communauté du football en ces moments de besoin. Troisièmement, alors que la vie ralentit, voir comment nous pouvons utiliser ce moment pour réfléchir et penser au futur. Je dirais que c'est la plus grande crise à laquelle le football est confronté dans son histoire. Mais c'est aussi une possibilité de réinitialiser certaines choses, de voir les choses différemment. Et honnêtement, je suis optimiste pour l'avenir. Nous devrons être un peu prudents au début, mais nous sommes capables de revenir.
Jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le milieu du football n'avait connu un tel bouleversement. Après l'interruption brutale des championnats du printemps, puis la reprise d'une partie des compétitions, la situation reste incertaine et surtout inédite. Des matchs à huis clos sans supporters, des rencontres susceptibles d'être reportées à tout moment en cas de joueurs malades. Un vent de panique souffle sur la planète football, car la pandémie, si elle cause des dégâts, accélère une autre crise qui refuse de dire son nom depuis plusieurs années. Inflation des salaires, bulles spéculatives du marché des transferts et hyper-dépendance aux droits télévisuels. Certains clubs sont aujourd'hui au bord de la faillite, à l'instar de l'équipe lilloise revendue cette semaine à un fonds d'investissement. Début décembre, Mediapro, la société qui détenait les droits de diffusion des Ligues 1 et 2 du championnat français, s'est déclarée dans l'incapacité de payer, accélérant l'incertitude sur l'avenir des clubs, un fiasco qui révèle aux yeux du monde les failles d'un système toujours plus avide de rentrer d'argent, mais incapable de tenir ses comptes à l'équilibre. L'économie du football est déconnectée du réel, ce n'est pas nouveau, mais pour la première fois peut-être, ces acteurs sont en train d'en prendre conscience. Alors quel avenir pour le football professionnel en Europe ? La crise sera-t-elle propice aux remises en question et à la réforme d'un modèle plus fragile qu'on ne le pensait ? Faut-il instaurer davantage de régulation, voire même des mécanismes de solidarité entre petits et grands clubs ? 2021 sera-t-elle l'année où le sport roi passera à l'âge de raison ? Eh bien, nous accueillons deux invités ce matin pour discuter de toutes ces questions. Vladimir Andreev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président du conseil scientifique de l'Observatoire de l'économie du sport au ministère des Sports. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sport. On va citer notamment « La mondialisation économique du sport ». C'était paru aux éditions de Beck en 2012. Et également avec nous ce matin pour discuter de toutes ces questions, Pierre Rondeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, économiste, co-directeur de l'Observatoire du sport de la Fondation Jean Jaurès et professeur à la Sports Management School à Paris. On citera l'ouvrage que vous avez co-écrit avec Richard Bouygues. Le foot va-t-il exploser pour une régulation du système économique du football ? C'était paru aux éditions de l'Aube en 2018. On est en plein dans le sujet. Alors, Vladimir Andreev, là, on va commencer par parler de l'impact du Covid, bien sûr, sur le foot. La FIFA a chiffré les pertes financières à 14 milliards d'euros pour le niveau mondial. Le syndicat des clubs européens parle, lui, de 3,6 milliards de pertes en incluant la saison 2020-2021, donc à l'échelle européenne. Est-ce qu'on a déjà une idée de la façon dont vont se traduire ces pertes concrètement pour les acteurs du football ? Est-ce qu'il faut s'attendre à la fermeture des clubs dans les mois à venir ?
Alors, je répondrai d'abord que
Il est difficile de faire des pronostics uniquement en se basant sur le Covid, parce que ça n'est qu'un aspect de la crise. Disons que c'est l'aspect le plus superficiel, même si ça va coûter, d'après l'ADNCG Football en France, 800 millions au football pendant cette saison. Mais je voudrais insister sur le fait que ça n'est que la surface des choses. La crise du football professionnel en Europe dure depuis deux décennies. En 2006, le Journal of Sports Economics, la revue de référence, publie un numéro spécial intitulé « La crise financière du football européen ». Donc, à mon avis, c'est ça qui est le plus grave, mais on n'en avait pas pris conscience suffisamment avant le choc du Covid-19. Et puis, il y a une deuxième crise qui est la crise du modèle de financement. Dans votre présentation, vous avez fait allusion à la très forte dépendance aux droits de télévision. Eh bien, cela plus le Covid conduit à la certitude, c'est la seule certitude qu'on ait dans un monde d'incertitude, c'est que le modèle actuel du football européen professionnel est mort. Enfin, il va survivre seulement avec des changements, ceux dont on va discuter, je pense, dans la suite.
Absolument. Et l'idée, effectivement, c'est d'essayer de comprendre comment le Covid-19 agit comme un révélateur. Peut-être pas comme la cause unique, vous l'avez bien souligné, c'est bien la question, mais comme un révélateur des failles d'un système. Pierre Rondeau, à très court terme pour le moment, on va venir ensuite aux racines du problème, mais à très court terme pour le moment, l'idée que des clubs puissent fermer dans les mois à venir, on joue à se faire peur ou c'est vraiment ce qui pourrait arriver?
Il y a une réelle inquiétude, hein, ça serait nier l'évidence que dire le contraire. Il y a une réelle inquiétude, ça a été dit, du fait à la fois des éléments conjoncturels, la crise du Covid-19 et la faillite de Mediapro, du fait des problématiques structurelles, hein, ça a été dit depuis maintenant deux décennies, le modèle économique du foot européen n'est pas pérenne, n'est pas tenable, et est assez fragile, même très fragile. Donc oui, il y a véritablement une inquiétude. Toutes les crises qui s'accumulent aujourd'hui ne font que finalement rajouter des handicaps au club. Déjà lourdement atteint par une problématique de gestion comptable, une problématique de pérennité comptable. Et donc oui, ils peuvent très clairement s'en inquiéter. Maintenant, effectivement, toute la question est de savoir si demain, lorsque la crise sanitaire s'arrêtera et que de nouveau on pourra repartir de plus belle et avoir du monde dans les stades, y aura-t-il toujours des investisseurs auprès des clubs inquiétés? Et quand je parle de clubs inquiétés, je parle des petits clubs. J'ai très peu d'inquiétude pour les gros clubs. Si je cite le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, ces gros clubs attireront toujours, quoi qu'il arrive, à la fois des investisseurs et des fans et des consommateurs.
Ça veut dire que ces gros clubs, actuellement, quand on parle de remise en question du modèle, peut-être même de baisse de salaire, etc., ces gros clubs, non, vous pensez que, malgré la crise actuelle, ne vont absolument pas être affectés dans leur modèle de fonctionnement actuel?
On peut parfaitement admettre que, parce qu'on a actuellement une crise conjoncturelle, on puisse avoir une réduction provisoire des salaires. D'ailleurs, ça s'est vu pendant le premier confinement au FC Barcelone, où les joueurs ont accepté de réduire provisoirement leur salaire pour faire face aux difficultés financières liées au Covid-19 et liées au confinement. Mais de là à impacter durablement cette réduction, je ne le pense pas, parce que demain, quand la crise, on l'espère tous, sera terminée, en tout cas la crise sanitaire, ces gros clubs-là auront toujours les moyens, par leur popularité, par leur puissance médiatique, de pouvoir attirer des consommateurs et des investisseurs. C'est plus inquiétant quand vous parliez de télédépendance, par exemple, pour des clubs en France comme Nîmes Olympique. Le club de Nîmes, dans le sud de la France, est dépendant à 70% des droits TV. Donc si demain les droits TV chutent de moitié, effectivement, c'est le budget qui est directement impacté. Donc, demain, les salaires, les rémunérations, les frais de fonctionnement, les frais de gestion et peut-être la survie du club. De là, maintenant, à parler de faillite généralisée, ou en tout cas faillite de club, attendons, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que demain, il va y avoir un rebond. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très grande inquiétude qui devra évidemment passer par des changements structurels.
Vladimir Andreev, vous parliez tout à l'heure d'un système économique structurellement défaillant. Alors, c'est peut-être une question naïve, mais certes, on a une crise là qui était complètement inattendue, mais est-ce que les clubs n'avaient pas, d'une certaine manière, anticipé leur dépendance, notamment aux droits télé, et peut-être mis de côté des réserves, ou en tout cas pris des mesures préventives pour anticiper un tel type de crise, étant donné, encore une fois, leur forte dépendance à très peu de sources de recettes.
Alors, disons qu'ils ont creusé leur tombe, pour le dire brièvement. Il y avait une sorte de cercle vicieux qui date de l'après Harry Bosman et de, disons, de la tentative de créer une Super League européenne en 1999. Tout ça a provoqué deux mécanismes.
Il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs l'arrêt Bosman en quelques mots.
L'arrêt Bosman, c'est un arrêt qui a rendu complètement libre la circulation des joueurs sur le marché quasiment mondial du travail des joueurs professionnels. Et donc, cela plus d'autres événements ont fait que depuis une vingtaine d'années, il y a une sorte de cercle vicieux ou spirale, je ne sais pas comment il faut dire, entre d'une part une inflation salariale qui n'est pas généralisée. Enfin, je veux dire par là que je ne suis pas en train de parler des clubs croates ou serbes, hein, mais je suis en train de parler des grands clubs que Rondo a évoqué tout à l'heure. Donc, une spirale inflationniste des salaires et aussi des indemnités de transfert qui étaient comblées régulièrement tous les 4 ans par la signature d'un contrat de plus en plus juteux, si je puis dire, avec une chaîne de télévision, plusieurs chaînes de télévision, qui donc entérinaient sous forme d'inflation des droits de télévision, ce qui était à l'origine une inflation salariale, et qui conduisait à ce que j'ai appelé dans un article du Monde la cupidité des clubs, en tous les cas des grands clubs, des plus grands clubs. Alors, ce n'est pas une cupidité des dirigeants, ils ne s'en mettent pas plein les poches, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais une cupidité qui traduit celle des grands joueurs superstars, c'est-à-dire des gens qui gagnent 3 millions d'euros par mois.
Et donc une fuite en avant des clubs qui sont à la recherche de toujours plus d'argent pour combler ces salaires, ces attentes salariales.
Voilà. Exactement. Donc si vous voulez avoir Neymar dans votre équipe, il faut aligner 3 millions d'euros de salaire par mois, plus des tas d'autres choses. Alors, je pense que cet aspect-là du modèle est fini. Cet aspect-là du modèle est fini. Je ne suis pas le seul à le dire. Le président de la DNCG, c'est-à-dire la Direction nationale du contrôle de gestion de la Ligue du football professionnel, Jean-Marc Michler, a déclaré officiellement la semaine dernière qu'il y aura des faillites de clubs. Il y aura des faillites de clubs face aux 800 millions d'euros de déficit cette année. Normalement, des clubs seront techniquement en situation de faillite. Alors, quand on est dans cette situation, il y a deux solutions. Soit vous trouvez un racheteur, ce qu'on appelle en anglais un sugar daddy, une sorte de tonton gâteau qui va investir à fond perdu dans la faillite du club, okay, et le renflouer. Il y a des sugar daddy très célèbres comme Abramovich ou le Sheikh Mansour en Angleterre, on en a aussi en France. L'autre solution pour éviter la faillite des clubs, c'est exactement ce que recommande le président de la DNCG, c'est nous devons, vous devez, s'adresse-t-il au club, vous devez baisser les salaires de 30%.
Oui, mais cette injonction...
Je ne vais pas pleurer sur le million d'euros que Neymar perdra dans cette affaire.
Cette injonction que vous expliquez, Vladimir Andreev, à baisser les salaires et à faire dégonfler la bulle spéculative des salaires des joueurs, est-ce que cette injonction est suffisante? C'est-à-dire, est-ce que pour que le modèle change réellement, quand vous dites le modèle est mort, mais quand les choses reviendront un peu à la normale, si elles reviennent à la normale, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que le marché s'emballe à nouveau? Parce que en l'absence de régulation, ce marché peut à nouveau s'emballer au plus offrant. Donc, est-ce que pour qu'il y ait un vrai changement, au-delà du choc, au-delà de l'injonction à changer, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement de la régulation, Pierre Rondeau ?
La régulation, si vous voulez, on est vraiment à la croisée des chemins. On peut imaginer d'un côté qu'il y ait justement cette volonté de régulation qui ne pourrait être faite, à mon sens, qu'à échelle internationale. La France ne peut pas se tirer une balle dans le pied à imposer un salarié cap pour un plafonnement des salaires ou une réduction des salaires nécessaires, hein, je ne dis pas le contraire, nécessaires à échelle franco-française, quand derrière, les clubs anglais, les clubs allemands, les clubs espagnols, eux, continuent à profiter de l'engouement de droit TV ou de l'inflation de droit TV, ou en tout cas l'inflation de leur salaire ou de l'attractivité de leur club pour des investisseurs.
Et une régulation à l'échelle internationale, c'est pas envisageable ?
Elle doit, à mon sens, si, justement, voilà, la question de savoir si régulation il y a, à quelle échelle, et pour moi elle doit être à échelle internationale, soit auprès de l'UEFA, soit auprès de la FIFA, mais en tout cas, il est évident qu'aujourd'hui, il faut passer par une remodélisation du système footballistique et de son économie, mais à échelle franco-française, ça me semblerait assez, et malheureusement assez compliqué, même si c'est nécessaire, ou alors, justement, quand je parle de croiser des chemins, on peut avoir deux cas de figure, et le deuxième cas de figure, c'est la volonté, l'engouement des puissants, des grands clubs, à se désolidariser finalement du modèle et du système footballistique européen pour, de façon indépendante et autonome, créer leur Super Ligue européenne. C'est aussi une possibilité. Quand on voit, pour donner un simple exemple, quand on voit là, actuellement est en train d'être renégocié les droits TV du foot américain, de la NFL, donc championnat nord-américain de foot US, et on parlerait sur 10 ans d'une somme de 100 milliards de dollars, donc 10 milliards de dollars par an sur 10 ans. Les dirigeants, et notamment les dirigeants des grands clubs européens, je pense notamment à André Agnelli, la Juventus de Turin, qui est aussi président de l'ECA, le syndicat des clubs européens, verraient d'un très bon œil finalement cette possibilité de pouvoir créer une fameuse Super Ligue européenne à portée mondialiste, internationaliste, hors sol, déconnectée des réalités nationales, et pouvoir négocier ensuite avec les GAFA ou d'autres acteurs économiques importants des droits TV à plus de 5-6 milliards d'euros par an. C'est une possibilité et ça permettrait de sauver leur modèle footballistique. Bien évidemment, en mettant à côté, en mettant sur le bord de la route ou carrément en tuant les petits clubs et qui eux ne pourraient pas profiter de cet engouement économique.
Alors, oui, mais alors deux questions à ce stade. D'une part, est-ce que cette Super Ligue européenne pourrait être capable d'instaurer en son sein des règles de régulation dont on parlait, ou bien vous considérez que non, c'est un monde à part pour les grands champions, les grandes stars, et on oublie l'idée de régulation. Voilà. Deuxièmement, qui va acheter ces droits télé faramineux que vous évoquez?
La première question, la réponse peut apparaître paradoxale, mais dites-vous bien que dans les modèles, dans les championnats nord-américains de sport, ces championnats sont totalement régulés. On imagine à chaque fois que les États-Unis c'est le territoire du libéralisme et du capitalisme dérégulé. Pour autant, la NFL, la MLB, la MLS et tous les grands championnats nord-américains sont régulés. Il y a un salary cap, il y a une luxury tax, il y a un système de draft pour les transferts, il y a une redistribution égalitaire des droits TV. C'est même très régulé contrairement aux championnats européens, mais c'est régulé entre gros. C'est tout le paradoxe finalement, c'est-à-dire que oui, il y a un salary cap, mais en NBA ou ailleurs, les salaires restent mirobolants parce que c'est redistribué uniquement entre gros, à l'inverse de l'Europe où là, c'est libéralisé et il y a une absence de régulation. Donc c'est tout le paradoxe. Les autres acteurs ensuite, ça sera les GAFA qui pourraient bien évidemment se positionner, hein, je pense notamment à Amazon, Netflix ou Facebook, qui pourraient éventuellement se positionner sur ces droits TV et atteindre des sommes mirobolantes.
Vladimir Andreev, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de création d'une Super Ligue pour sauver le football européen, une partie du football européen?
Je peux vous donner un exemple du fait que ça n'a rien sauvé du tout, c'est la EuroLeague Basketball. S'il se trouve qu'on a une Super Ligue dans un sport moins important que le football, qui est le basketball, qui est l'Euroleague, dont je viens de parler, qui rassemble les meilleurs clubs d'Europe, dont Villeurbanne, par exemple, parmi les clubs français. Cette ligue est régulièrement en déficit parce qu'on ne trouve pas de milliardaires pour exploiter des millionnaires. Cette formule que je viens de citer est celle qui résume le fonctionnement des ligues fermées nord-américaines auxquelles Rondeau a fait référence. Et contrairement à un mythe qu'on cultive souvent en Europe, quand on est partisan de ce système, je signale que beaucoup de clubs nord-américains sont eux aussi en déficit. Il y a une seule exception à cela, ce sont les clubs de NFL, National Football League, du football américain, où il n'y a qu'exceptionnellement des déficits. Dans les autres ligues, il y a beaucoup de clubs déficitaires. Et dans le cas de la NHL, la National Hockey League, il y a plus de la moitié des clubs déficitaires chaque année. C'est un sport qui est actuellement financièrement en crise aussi. Donc ne rêvons pas à une Super League. Je n'ai rien ni pour ni contre. Ce n'est pas ça la solution. La solution est plutôt dans ce que Rondeau a introduit comme des mesures de régulation. Donc il faut voir lesquelles. Je suis d'accord avec lui sur le point que une régulation efficace aujourd'hui ne peut être qu'au niveau international, pour le foot européen, en tous les cas. C'est clair que ni la France ni un autre pays ne peut le faire tout seul. Mais en même temps, je suis un petit peu inquiet et sceptique. Ayant été un des conseillers de l'UEFA pour la mise en place du financial fair play, du fair play financier, comme on dit, on sait qu'il a une efficacité, qu'une régulation internationale aujourd'hui dans le foot européen a une efficacité limitée. Alors une efficacité, oui, parce que ce fair play financier a divisé par deux le nombre des clubs et des ligues en déficit. Donc ça, c'est un résultat positif. Mais en même temps, c'est limité parce qu'il y a des délinquants persistants, genre Manchester City ou Paris Saint-Germain, qui refusent d'appliquer les règles et même de se soumettre aux sanctions.
Alors cette règle du fair play financier que vous évoquez, donc règle en vertu de laquelle les clubs ne peuvent dépenser plus qu'ils ne gagnent, elle a été mise en place en 2009-2011 vraiment par l'UEFA. C'est un encadrement, vous le disiez, qui a permis un encadrement plutôt positif pour les clubs, mais qui pourrait évoluer. En tout cas, c'est ce que sous-entendait Alexander Seferin, le patron de l'UEFA, le 14 août 2020. Écoutez.
Le fair play financier a été un outil qui a eu beaucoup de succès, parce que les pertes dans le football européen ont quasiment disparu. Mais il faut le moderniser, commencer à penser vers où on se dirige. Les choses changent, l'environnement change. Nous réfléchissons donc à quelques changements, mais c'est trop tôt pour en discuter publiquement. Croyez-moi, on en parle. Il faut peut-être ne pas seulement parler du fair play financier, mais aussi de l'équilibre compétitif.
Comment est-ce que vous analysez, Vladimir Andreev, ces propos du patron de l'UEFA appelant à moderniser la règle de fair play ?
Je pense que M. Seferin est un homme politique. Il a donc un discours d'homme politique qui a donc deux facettes, comme chez tout homme politique. Il y a un premier point qui est tout à fait sur lequel je suis d'accord et sur lequel il a raison. Il faut en effet moderniser non seulement le football européen, mais également les régulations, y compris le fair play financier. J'ai des collègues comme Egon Frank, qui fait partie de l'audit du fair play financier, qui s'occupe très sérieusement de cette question. C'est l'aspect pile de la médaille, si vous voulez. Mais le côté face, c'est un petit peu moins reluisant. Monsieur Seferin est soumis à une pression extrêmement forte de ce que j'appellerais l'oligopole, c'est-à-dire un nombre réduit de concurrents sur un marché, l'oligopole des grands clubs de football européens. Moi-même, j'estime qu'il y en a une vingtaine, mais chaque fois que je me rends à l'UEFA, beaucoup de mes interlocuteurs me disent « Non, tu es trop optimiste, il n'y en a qu'une dizaine ». Et là, vous voyez tout de suite que le projet de Super League a immédiatement du plomb dans l'aile, parce qu'on ne va pas faire une Super League à 10 clubs. Hein, les 10 clubs dominant le football européen ont besoin d'une ligue plus grande. On parle parfois de 20 clubs, de 32 clubs, peu importe, mais ils vont être obligés de jouer avec des plus faibles qu'eux. Et on va retrouver à ce niveau-là le même problème qu'on a dans les ligues nationales aujourd'hui, où vous avez quelques clubs dominants qui raflent toutes les mises, qui raflent tous les titres, toutes les victoires, et qui provoquent ce déséquilibre compétitif auquel a fait allusion Seferin, mais qui est aussi un gros déséquilibre économique.
Pierre Rondeau, vous êtes d'accord avec Vladimir Andreev pour dire que 10 ans après sa mise en place, cette règle de fair play financier, qui finalement est une des rares règles qui existent en matière d'encadrement, eh bien, a un bilan plutôt positif ?
Oui, bien sûr. Oui, alors c'est pour ça que Vladimir Andreev l'a très bien expliqué. Il faut bien distinguer l'aspect économique et l'aspect compétitif, l'aspect sportif. Économiquement parlant et comptablement parlant, le fair play financier était un succès. Effectivement, les clubs déficitaires ont été divisés par deux. Le nombre de clubs déficitaires a été divisé par deux. La dette footballistique a largement été réduite depuis maintenant depuis 2011 et la mise en place du fair play financier. Donc, d'un point de vue purement comptable et économique, le fair play financier est un succès. Mais précisément, lorsque Seferin parle d'équilibre compétitif et non pas économique, il met en avant l'effet pervers qu'a eu le fair play financier d'avoir renforcé finalement les inégalités sportives entre les clubs. Le fait que dorénavant, dans le paradigme comptable des clubs européens, soit dorénavant gagner de l'argent avant de pouvoir dépenser, a obligé ou incité à ce que des très gros clubs européens multiplient leurs recettes commerciales, leurs recettes marketing, leurs recettes sponsoring, aillent développer justement les partenariats aux quatre coins du globe avec des marques et des sponsors et des annonceurs, augmenter de façon considérable leurs revenus économiques et leur chiffre d'affaires pour pouvoir a posteriori dépenser. Mais résultat, ces gros clubs ont pu se renforcer sportivement et les inégalités sportives se sont considérablement renforcées depuis 2011 et la mise en place du fair play financier. Donc économiquement, c'est un succès, mais sportivement, il est beaucoup critiqué parce qu'il justement, il permet de protéger les 8, 9, 10 gros clubs européens et que tous les autres... Par exemple, c'est très simple, sportivement, pour que les auditeurs comprennent bien, autrefois, en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe, on avait parfois le FC Porto, l'Ajax Amsterdam, le Glasgow, des clubs d'autres pays que le Big Four, en quart, en demi ou en finale de Ligue des Champions. Dorénavant, c'est quasiment à chaque fois toujours les mêmes. Dès les huitièmes de finale, on a les huit clubs les plus riches du monde présents aux dernières places de Coupe d'Europe. C'est ce qui a provoqué le fair-play financier. Donc, comptablement, c'est un succès. Sportivement, c'est un échec.
Et puis, il y a une autre faille peut-être qu'il faut souligner en matière d'inégalité, c'est que plusieurs grands clubs se sont déjà vus attribuer des amendes depuis 2010, mais certains ont refusé de payer ou en tout cas ont traîné les pieds. Est-ce que ça signifie que les grands clubs ont le pouvoir de s'affranchir de ces règles et du coup, eh bien, que vaut cette règle si elle ne s'applique pas au plus puissant Vladimir Andreev ?
Oui, alors je confirme que quelques grands clubs... L'histoire, je ne vais pas refaire l'histoire du fair play financier, mais la première année d'application de sanctions, qui devait être 2012, on a sanctionné des clubs tchétchènes, slovènes, etc. Turcs au mieux, mais dès qu'on a commencé à sanctionner des clubs plus sérieusement, enfin plus connus, genre Valence et alors fortiori Paris Saint-Germain et Manchester City, c'est devenu problématique. C'est le problème que moi je vois dans le fair play financier. Comme on l'a dit, c'est pas un problème d'équilibre économique. À la limite, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un très gros déséquilibre compétitif depuis le fair play financier, mais ce n'est pas le seul facteur de déséquilibre compétitif. Il y a aussi l'acquisition des clubs en faillite par des sugar daddies, comme je le précisais précédemment. Quoi qu'il en soit, en dehors de ces deux problèmes de déséquilibre, il y a ce qu'on appelle en anglais un problème de governance ou de gouvernance ou de rule enforcement, c'est-à-dire d'application de la loi. Or, la loi, c'est le fair-play financier et il y a des clubs qui sont assez puissants et assez riches pour refuser l'application de la loi. Donc, c'est pour ça que je les ai traités de délinquants. Paris Saint-Germain en est un, mais le pire était effectivement Manchester City qui, aujourd'hui, n'a pas encore payé une amende de 20 ou 60 millions d'euros qui lui avait été infligée en 2016.
Oui, c'est
et qui a traîné l'UEFA en justice. Donc, et comme il est très puissant, ce n'est pas sûr que l'UEFA gagne les procès contre Manchester City. Et c'est pour ça que Schäferin, tout à l'heure, avait un propos double, parce qu'il doit en même temps ménager les grands clubs.
Pierre Rondeau.
Oui, justement, oui, c'est tout le paradoxe dans le football, dans l'application de la loi, c'est qu'on parle aussi de... Enfin, ça reste de la politique. Ça reste de la politique en interne où l'UEFA a à la fois besoin d'appliquer son règlement pour garder une certaine forme de respectabilité, en tout cas de légitimité. Mais dans le même temps, si elle se met à sanctionner les gros clubs générateurs d'audience, d'audimat et de recettes publicitaires et marketing, comme le Paris Saint-Germain, comme le FC Barcelone, comme la Juventus de Turin, comme Manchester City, il se tire aussi une balle dans le pied parce que ces clubs-là risqueraient de dire « je refuse de payer et si tu m'imposes cette sanction, vous m'imposez cette sanction, moi je me retire et je crée ma Super Ligue européenne ». La Super Ligue européenne, ce serpent de mer européen, existe depuis maintenant une vingtaine d'années, mais a toujours été un outil politique.
Comme projet.
Comme projet, voilà. Comme projet, ça a toujours été ce bâton qu'on pouvait brandir en disant « si vous nous sanctionnez, si vous nous faites du mal, nous partons et nous créons cette Super Ligue européenne ». Vladimir Andreev l'avait très bien expliqué. Il y a 20 ans, quand justement on a réformé la Ligue des Champions, ça venait aussi au départ d'une volonté du G14, les 14 clubs les plus riches d'Europe, de créer une compétition indépendante. C'était de dire « soit vous nous accordez plus de redistribution de droits TV, soit nous partons ». C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec le fair play financier, c'est oui, effectivement, il y a une réglementation européenne qu'on va respecter pour vous faire plaisir, mais si nous ne la respectons pas, attention, parce que nous pouvons partir. Nous pouvons aller créer cette Super Ligue européenne. Quand City est sanctionné pour des choses quand même, on parle quand même de dopage financier, comme le Paris Saint-Germain d'ailleurs, de dopage financier dépassant les 200 millions d'euros par saison, la sanction qu'il y a eu, une sanction très légère, alors que d'autres clubs tchétchènes, biélorusses ou autres, eux, ont été sanctionnés durablement et difficilement. Ces gros clubs comme le PSG ou Manchester City, soit ils ont été blanchis après un appel au TAS, soit ils ont été sanctionnés pour le PSG en 2013 d'une inscription de seulement 23 joueurs en Ligue des Champions au lieu de 25.
Le TAS, le tribunal arbitral du sport, pour préciser. Je voudrais qu'on revienne à cette question de la dépendance aux droits télévisuels. Début décembre, la société de diffusion catalane Mediapro, qui détenait donc les droits de diffusion de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue des Champions en France, a déclaré qu'elle ne pourrait plus payer les 820 millions d'euros qu'elle s'était engagée à verser par an et par saison sur la saison 2020-2024. Je vous propose d'écouter la réaction des clubs.
C'est trop facile de dire aujourd'hui à qui la faute. Le responsable, c'est Mediapro. C'est Mediapro et la loi leur a permis de tout bloquer. Mais on a eu affaire à des gens très malhonnêtes. Il y a évidemment ce qui se passe au niveau du football professionnel, la ligue et les clubs, mais il y a aussi ces gens qui travaillent. Le football génère beaucoup, beaucoup d'emplois. Et une chaîne, quand elle obtient les droits, génère beaucoup, beaucoup d'emplois. Et à partir du moment où les détenteurs des droits ne payent pas, ça met tout le monde en difficulté. J'insiste sur le fait que, à mes yeux, le seul responsable, le grand responsable, c'est Mediapro.
Ah voilà, c'était Christophe Galtier, l'entraîneur du club lillois. Vladimir Andreff, les clubs, évidemment, ne s'interrogent pas là sur leurs responsabilités. Vous en pensez quoi ?
Je pense qu'ils sont... les responsabilités sont toujours partagées quand il y a un contrat. Et c'est le cas. Il y a un contrat entre Mediapro et la Ligue, la LFP, la Ligue de football professionnelle. Donc, il y a deux responsables, nécessairement. Alors, je ne vais pas prendre la défense de Mediapro. Je ne connais pas Monsieur Jaurès, etc. Mais bon, il y a quand même dans cette affaire une erreur. C'est un cas superficiel qui illustre un problème plus profond. Le cas superficiel, on a, la LFP a contracté avec une partie qui ne présentait pas les garanties financières requises, puisque Mediapro avait été retoqué par la Ligue professionnelle italienne quelque temps auparavant pour manque de garanties financières. Donc, il y a au moins une erreur de gestion ou de tactique de la part de la LFP qui était pour avoir plus d'argent. On va prendre l'offre de Mediapro, alors qu'il y avait quand même des concurrents, Canal+, beIN Sport, Free, etc., qui étaient aussi sur la ligne de départ. Et donc, ils ont accepté de donner 80% des droits à Mediapro et 20% aux autres. Ça, c'est une erreur de tactique, c'est une erreur économique. Une bonne gestion consiste à diversifier ses portefeuilles, y compris ses portefeuilles de clients, et donc... Une meilleure stratégie de la LFP aurait été de donner moins de 80% à Mediapro, disons 30 ou 40%, et répartir le reste entre les autres demandeurs. Et pourquoi ça n'est pas fait ? En raison d'un système qui, lui, est vicié, qui a des aspects du problème plus structurel, qui est la vente des droits de télévision aux enchères. Pourquoi une ligue vend-elle les droits aux enchères ? Pour gagner le plus d'argent possible, en faisant surenchérir les chaînes de télévision les unes par rapport aux autres. Donc c'est une sorte de maximisation des revenus, mais peut-être que la stratégie d'avenir sera une autre, et l'affaire Mediapro fera peut-être date pour cette raison, qui, au lieu de maximiser ses revenus, consistera plutôt à minimiser ses risques, quitte à perdre un petit peu sur ses revenus. Et je pense que la crise actuelle va nous emmener dans ce sens, d'autant plus que les droits de télévision à long terme sont destinés à représenter une part de moins en moins grande dans le financement du football. Car, comme vous n'ignorez pas, aujourd'hui, le mode de consommation médiatique du football préféré, notamment par les jeunes générations, n'est plus le match vu sur une chaîne de télévision, sur un écran de télévision. C'est un match vu en streaming sur son smartphone ou sur sa tablette, et qui passe par les grandes plateformes et non pas par les chaînes de télévision. Et d'ailleurs, toutes les chaînes de télévision s'inquiètent aujourd'hui beaucoup de cette concurrence et à terme, elles anticipent de donner moins de droits au football parce qu'elles auront moins d'abonnés payants au football, étant donné que le streaming en piratage peut être totalement gratuit.
On va revenir dans un instant sur cette nouvelle pratique de consommation du sport, effectivement, qui risque de révolutionner le modèle économique du foot. Mais juste encore un instant, puisqu'on évoquait les possibilités de régulation de l'économie du football. Sur les droits télé, Vladimir Andreff, est-ce qu'on pourrait imaginer un encadrement ? Et alors, si oui, par qui pourrait-il être mis en place ? Qui empêche précisément un diffuseur de promettre monts et merveilles sans avoir les moyens de payer, comme ça a été le cas de Mediapro ?
Et il n'y a personne où il faudrait qu'il y ait, en matière de droits de télévision, l'équivalent de ce que l'on a en termes de paris sportifs. Dans le cas du marché des paris sportifs, il y a un régulateur qui en France s'appelle l'ARJEL. Ça devrait être l'Agence de régulation des jeux en ligne, voilà, qui ne contrôle pas bien le marché, hein, pas parfaitement le marché, mais enfin qui a émis un certain nombre de règles qui sont en principe, mais je dis bien en principe seulement, respecté. On n'a pas l'équivalent, enfin disons le CSA ne joue pas ce rôle en France.
Pierre Rondeau,
le régulateur des émissions de sport.
Non, mais ce qui est intéressant, quand on étudie un peu de façon théorique et structurelle ce mécanisme de marché et cette vente aux enchères, c'est qu'on a précisément trois acteurs. On a les clubs, on a les diffuseurs et les consommateurs, les fans de foot. Et ce système démontre empiriquement à quel point la dérégulation ou la libéralisation ne permet pas de maximiser l'intérêt collectif. Dans tous les cas, quel qu'il soit, dans tous les cas, l'un des trois acteurs ne pourra pas atteindre son optimum particulier. Là, ici, précisément, les ligues ont maximisé leurs revenus en mettant des droits TV à 1,153 milliard d'euros, dont 820 payés par Mediapro, en théorie. Donc les clubs ont maximisé leurs revenus à l'encontre à la fois du diffuseur qui n'a pas été capable de rentabiliser son investissement et à l'encontre du consommateur qui s'est tourné vers d'autres moyens souvent illégaux pour regarder du football, le streaming et l'IPTV. Inversement, si on se mettait à soutenir, à travers une loi ou une régulation, si on se mettait à soutenir le pouvoir du consommateur et l'intérêt du consommateur en fixant un prix plafond, par exemple, d'abonnement, maximum à 20 ou 25 euros par mois pour le football européen ou national, ça irait à l'encontre des clubs qui ne pourraient pas maximiser leurs revenus, mais qui devraient, justement, à mon sens, changer de modèle et se tourner vers d'autres ressources de revenus que celles des droits TV.
Oui, mais comme tout marché économique, à un moment, il y a bien un point d'équilibre.
Et justement, il faut le trouver, le point d'équilibre. Mais pour trouver le point d'équilibre, il faut de la régulation. En laissant faire cette libéralisation effrénée depuis 20 ans, on a abouti à un point de rupture où les clubs et les diffuseurs ont frôlé, vont frôler la faillite. En laissant faire, sans aucune régulation et aucun contrôle, puisque, précisons-le par exemple, les garanties financières que la Ligue aurait dû demander à Mediapro, les garanties financières ne sont pas une obligation. Pour le cas italien par exemple, c'est le concurrent, la Sky Italia, qui a demandé à la justice à ce que Mediapro apporte des garanties financières. Initialement, la Serie A n'avait jamais exigé de garanties financières, ça ne fait pas partie de la loi et du règlement. Donc, cette dérégulation et cette libéralisation du système a provoqué ce point de rupture et cette absence d'équilibre libre maximisateur entre les consommateurs, les diffuseurs et les clubs. Donc pour garantir ce système qui ira mécaniquement provoquer un optimum de second rang et qui diminuera la rentabilité des clubs, il faut de la régulation et il faut imposer soit des garde-fous, soit un prix plafond, mais de la régulation.
Et alors, à défaut de régulation dans l'immédiat, est-ce que tout simplement le fait que cette cessation de paiement et le fait que maintenant la Ligue doit trouver un nouveau diffuseur qui certainement ne va pas payer aussi cher que payait Mediapro, eh bien, est-ce qu'à court terme, on pourrait quand même s'attendre à un dégonflement de cette bulle spéculative autour des droits télévisés? Vision, Vladimir Andreev.
Alors, je réponds en même temps à votre question et à ce commentaire précédent de Pierre Rondeau. Le problème, si on veut réguler le marché des droits de télévision, par exemple le plafonner, comme il le suggérait, je ne suis pas hostile à cette proposition, mais elle est techniquement impossible tant que les droits de télévision sont attribués par enchères. Parce que dès lors qu'on met aux enchères n'importe quel objet, il va y avoir une surenchère entre dès lors qu'il y a une mise aux enchères, ça veut dire qu'il y a plusieurs concurrents pour acheter les droits de télévision. Ces concurrents vont se livrer à une sorte de surenchère, n'est-ce pas, dont on ne sait pas où elle peut s'arrêter, puisqu'elle dépend uniquement soit de l'optimisme des chaînes qui surenchérissent les unes sur les autres, c'est la plus optimiste qui accepte de payer le plus cher, qui éventuellement fera faillite après, c'est déjà arrivé, ou bien ça sera la plus menteuse. Certains ont traité M. Raores de menteur, en disant il pouvait pas payer, ce qui sans doute était vrai dès le départ. Il a promis de l'argent qu'il n'avait pas. Bon, donc, si on veut réguler le marché des droits de télévision, certainement il faut créer une instance et prendre des décisions et énoncer des règles, mais surtout, il faut abandonner l'allocation des droits de télévision par enchère. Car si on maintient cela, l'efficacité du plafond, etc., c'est impossible. On franchira les plafonds à tous les coups. Et donc, si je suis en train de vous dire ça, je suis en train en même temps de vous dire que le football doit accepter de devenir moins riche. Il aura moins, si on renonce au système d'enchères, les montants gagnés par le football en termes de droits de télévision seront moins élevés qu'auparavant.
Mais ça, vous y croyez, Vladimir Andreev ? Vous croyez que les acteurs du sport et les grandes stars du football vont accepter de brasser moins d'argent, de devenir moins riches ?
Vous avez directement tiré l'implication de mon propos, qui est en effet Neymar et autres, Messi, etc., vont devoir renoncer a une part de leur rétribution. Ce n'est pas moi qui le demande, hein, c'est le président de la DNCG, mais je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. Je pense que les futurs Neymar, etc., doivent oublier les salaires à plus d'un million d'euros par mois et doivent oublier les primes de transfert à plus de 50 millions d'euros sur le marché des transferts. Je pense que ça, c'est fini. C'est, qu'ils le veuillent ou non, qu'on fasse une réforme ou non, on va aller dans cette direction.
Et vous, Pierre Rondeau, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous croyez à une déflation durable de la bulle spéculative du monde du
durable,
foot ?
Durable, je ne sais pas, j'aimerais y croire. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, oui, on n'aura très certainement pas au prochain mercato estival européen des transferts de plus de 150 ou 200 millions d'euros. Pour moi, c'est une évidence. On n'aura plus de primes à la signature de 20, 30, 40 millions d'euros. Il y aura une rigueur qui s'imposera.
Oui, mais là, vous parlez de la rigueur de la crise, donc cette année, l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui va se passer les années suivantes ?
Les années suivantes, voilà, je reste sceptique. J'ai envie d'y croire. Maintenant, je regarde ce qui se fait. Alors, c'est vrai que la Super League européenne, alors je n'y suis pas partisan, mais c'est une perspective, une possibilité. Ça fait d'ailleurs 20 ans qu'on en parle. C'est sûr que si on la compare au modèle du basket européen, c'est pas tenable, c'est pas soutenable. Maintenant, quand je vois les prix négociés actuellement avec l'arrivée d'Amazon dans les droits TV de la NFL du foot US nord-américain, à 100 milliards de dollars sur 10 ans, donc 10 milliards de dollars par an. Quand je vois que, d'après différentes sources, on pronostiquerait des droits TV, si Super League européenne, à 5 ou 6 milliards d'euros par an, je me dis qu'on pourrait avoir une sorte de segmentation du football entre un football professionnel mondialisé hors sol et des grandes stars qui continuera à être payé 10, 15, 20, 30 millions d'euros par an et un autre football localisé, national, avec des droits TV réduits de moitié, voire pire, et des joueurs avec des salaires bien plus faibles que ceux d'aujourd'hui, mais une véritable segmentation et bipolarisation du football entre un football mondialisé et un football local, national.
On est avec vous, Pierre Rondeau, Vladimir Andreev, pour parler de la crise économique que traverse le football professionnel. Direction maintenant la Chine, nation émergente du football et nouvel Eldorado du foot mondial.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Je suis un fan de foot. Le foot chinois fait beaucoup d'efforts depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, on n'a participé qu'une seule fois à la Coupe du Monde.
J'ai toujours eu la passion du foot. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est quand j'arrive à dépasser les autres. Dribbler, courir plus vite. J'aime ça depuis que je suis tout petit. Je rêve d'aller jouer en Europe, mais il faut que je fasse encore des progrès. En Espagne, à Barcelone ou à Madrid, je veux vraiment devenir une star du foot.
Le président chinois Xi Jinping a décidé de faire de son pays une grande nation du football à l'horizon 2030, une ambition qui s'est traduite par des investissements massifs dans le championnat national, mais aussi et surtout à l'étranger. Une aubaine pour les clubs européens entre entrées d'argent frais dans leur capital et transferts de joueurs pour des sommes parfois astronomiques. Sauf que la manne financière chinoise commence à se tarir. Le pays mise désormais sur le développement de son championnat et de ses joueurs nationaux. Alors la Chine est-elle vraiment la planche de salut du football mondial ? Et nous accueillons un nouvel invité pour en discuter. Bonjour Mathieu Lorca.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, membre du laboratoire d'économie de Dijon. Peut-être d'abord une première question sur la passion du football en Chine. Xi Jinping, lui, ne cache pas son attrait du football. Mais qu'en est-il pour le reste du pays ? Est-ce que le foot est vraiment populaire en Chine ?
Alors, effectivement, on a cette envie du football chinois qui est exprimée par Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir en 2013, hein, et avec un plan en 2015. Et on a environ 90 millions de pratiquants en Chine, et notamment chez les plus jeunes, avec des milliers d'écoles satellites, des académies de football, et un enseignement du football qui devient obligatoire dès le plus jeune âge.
Et alors, donc je disais, le foot chinois a été vu, perçu ces dernières années en Europe comme une sorte d'Eldorado par la manne financière qui est arrivée en Europe, notamment via des rachats de parts dans les clubs. Et pourtant, la Chine est en train de réduire la voilure. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu Lorca ?
Ben, tout simplement, on a eu un changement de trajectoire, un petit peu qui est similaire à celle des investissements directs à l'étranger opérée par la Chine. Hein, et c'est cette loi du 19 août 2017 hein, qui lutte contre les sorties de capitaux. Donc pour n'importe quel investissement, hein, que ce soit dans le foot, mais également dans les divertissements ou l'hôtellerie. Donc on cherche à limiter hein, complètement les sorties de capitaux qui sont finalement, notamment dans des secteurs comme le football, qui sont jugés irrationnels, spéculatifs, pour se concentrer plutôt sur des investissements d'opérations stratégiques du type dans des infrastructures dans les routes de la soie.
Et c'est vrai qu'on va peut-être faire un retour un peu en arrière, les années 2004-2005, on a parlé de folie du football en Chine, notamment du côté des investisseurs. Et alors il y avait donc des investissements à l'étranger, mais aussi l'objectif de faire émerger une super ligue chinoise en Chine. Quelle était la volonté politique à ce moment-là, entre investisseurs d'un côté, mais aussi le Parti communiste chinois?
Bah, tout simplement, on a une double volonté. Hein. La Chine, c'est l'ambition première, hein, est à moyen terme, et d'organiser la Coupe du Monde 2030 de football. Hein, d'autant que c'est la Coupe du Monde du centenaire hein, qui a été créée en 1930 et de la gagner en 2050, qui correspond au centenaire de la République populaire de Chine. Et dans le même sens, donc, on s'appuie sur les grands conglomérats privés chinois. Qui eux ont des visées financières, hein, un petit peu de notoriété commerciale, mais également d'avoir les faveurs du parti.
Toujours dans ces années-là, donc les investisseurs dont vous parliez, donc c'est à la fois des conglomérats, des grands chefs d'entreprise, ont pris des parts dans des clubs européens, voire ont racheté certains clubs. On va peut-être évoquer le cas de l'AC Milan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que venaient chercher les investisseurs chinois à ce moment-là? Quel était vraiment l'intérêt pour eux? Est-ce que c'était faire de l'argent? Mais on a vu que le modèle économique du foot n'est pas toujours rentable. Et si ce n'était pas faire de l'argent, qu'étaient-ils venus chercher en investissant dans ces clubs?
La priorité, hein, c'est vrai, véritablement le savoir-faire, hein, un transfert de compétences dans les clubs les meilleurs en formation. Si on prend le cas de la France, Lyon, Auxerre, Nice, Sochaux, qui sont renommés pour leur formation. Donc on cible hein, ces clubs-là, qui ont également une bonne image, pour avoir ce transfert de compétences, de savoir-faire. Et en second lieu, on peut également avoir un intérêt de visibilité. Je pense par exemple au cas de Huawei, lorsqu'il avait ses contrats avec le PSG ou Arsenal.
Et du côté...
On est vraiment dans ce transfert de savoir-faire.
Et du côté des clubs européens, est-ce que c'était un contrat gagnant-gagnant? Est-ce que les clubs ont vraiment pu bénéficier d'une nouvelle entrée d'argent frais qui a été peut-être salvatrice pour certains?
Alors effectivement, on a eu des entrées de capitaux et surtout des entrées de nouveaux contrats sponsoring. Et en fait, ça rentre également dans les stratégies d'internationalisation des clubs, hein, notamment des clubs espagnols, hein, italiens ou britanniques, mais également le cas de l'Olympique Lyonnais, qui permet hein, d'être visible sur le territoire chinois et d'avoir des millions de fans hein, sur les réseaux sociaux chinois, WeChat, Sina Weibo, et donc automatiquement derrière des recettes merchandising, hein, des ventes de maillots, et également de nouer des nouveaux partenariats de sponsoring avec des entreprises chinoises.
Alors, sauf qu'il n'y a pas eu que des succès dans cette aventure des investisseurs chinois dans le foot européen. On va peut-être évoquer donc ce cas de l'AC Milan. Le club avait été racheté par l'homme d'affaires Li Yonghong et qui a dû finalement eh bien, le céder en 2018 à un fonds d'investissement. Le club a été criblé de dettes. Qu'illustre cet échec à vos yeux?
C'est un petit peu c'est le manque de culture tout à fait de la Chine hein, dans le sport, hein, tout d'abord. Je crois qu'on s'est emballé un petit peu comme dans le cas de Mediapro qu'on évoquait précédemment, sur les montants en jeu et les dettes derrière. Et d'autant que ce qui est intéressant à voir à cette époque-là, c'est qu'on avait une hostilité du pouvoir à l'égard de cette opération, qui finalement a été opérée avec retard, hein, puisque le Milan AC est également le club de Berlusconi, hein, qui a toujours des réseaux dedans. Et donc on a mis un petit peu des bâtons dans les roues à cet homme d'affaires chinois, et qui avait dû réaliser l'opération un petit peu sous forme de LBO, hein, Leverage Buyout, par endettement, hein, auprès du fonds Elliott Management. Donc l'opération n'était pas viable financièrement, et faisait déjà l'objet de nombreux retards et de nombreuses restrictions de la part du pouvoir et des parties prenantes en jeu.
Vous parlez d'emballement, il y a aussi un autre phénomène qu'il faut souligner quand on parle de football en Chine, c'est la politique des transferts, hein, donc la Super League chinoise qui est une ligue qui n'a pas les résultats sportifs disons comparables à ceux des clubs européens, et pourtant elle fait partie des plus dépensières au monde. Et il y a un exemple évidemment emblématique, c'est le rachat du joueur Carlos Tevez, le joueur argentin racheté 10 millions d'euros à peu près à son club Boca Junior, et payé ensuite 38 millions d'euros par saison, ce qui en a fait le joueur le mieux payé au monde. Et pourtant, cet investissement énormissime s'est révélé un échec. Que s'est-il passé là encore? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire?
Alors, l'exemple Tevez, mais qui a amené d'autres, hein, on avait à peu près 10 joueurs étrangers qui gagnaient plus de 15 millions d'euros, hein, qui étaient finalement surévalués en termes de salaire par rapport à leur valeur marchande. Et donc ce type de transfert, hein, et surtout en salaire, a amené l'État chinois à réagir avec une taxe sur les transferts, hein, via la Fédération chinoise de football, qui est assez innovante, hein, par rapport au modèle européen, puisque tout transfert supérieur à 6 millions d'euros fait l'objet d'une taxe à 100%, et donc qui va directement alimenter un fonds national de développement des joueurs chinois.
Donc désormais, l'idée, c'est de d'empêcher ou de limiter, en tout cas, cet emballement sur des transferts. Je reste avec nous, Mathieu Lorca. J'aimerais qu'on fasse réagir nos invités en plateau. À l'avenir, les clubs européens ne pourront plus, ou en tout cas moins, compter sur les investissements chinois. Pierre Rondeau.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, l'état actuel des choses, d'un point de vue strictement conjoncturel, oui, c'est une évidence. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur des investissements chinois. Ils sont plafonnés, ils sont même contrôlés et ils sont fléchés vers directement les investissements nationaux. La Chine va d'abord privilégier ses écoles et ses centres de formation locaux et nationaux plutôt que des investissements à l'étranger. C'est vrai qu'il y a eu, il fut un temps, dans les années 2000 et 2010, on avait beaucoup d'investissements en Europe et en France précisément. Ça a été dit, hein, Lyon, Sochaux, Auxerre, Nice, pour la formation, pour l'échange de compétences et pour la captation de compétences aussi. Aujourd'hui, dorénavant, parce que la conjoncture fait qu'il y a une limitation des investissements, ils vont flécher plutôt leurs investissements vers directement la Chine. Maintenant, toute la question sera de savoir si ça sera opérant pour leur performance et leur réussite sportive. Hein. Je suis très sceptique sur la capacité finalement d'acheter la culture footballistique. Ça a été dit justement, c'est une question de culture, le sport. Et croire que mettre en place 10 000, 15 000, 20 000 écoles maternelle de football pour les Chinois formera plus tard un Messi ou un Ronaldo chinois. S'il n'y a pas la culture derrière et l'apprentissage quotidien du football, je reste très sceptique sur cette capacité à ambitionner une victoire en Coupe du Monde en 2050.
Vladimir Andreev, Mathieu Lorca nous expliquait donc que le pouvoir chinois a mis en place une règle qui consiste à imposer une taxe à 100% sur l'argent dépensé pour le transfert de joueurs étrangers. Est-ce qu'on n'a pas là l'exemple d'une mesure de régulation intéressante qui oblige le club à provisionner l'argent, plus d'argent, et donc de faire un petit peu attention aux sommes qu'il promet et à l'investir localement? Est-ce que c'est une mesure qui pourrait être inspirante pour les championnats européens?
Alors, je vais être un peu provocateur. Nous ne sommes pas dans un capitalisme communiste. Donc, on n'a aucune chance de mettre en place un tel système, mais ça n'est pas sur le fond du fond nécessairement une mauvaise idée. Peut-être que la taxe pourrait être de moins de 100% comme taux, et on aurait là en effet des moyens de compenser les pertes de financement que le football européen va subir. Je voudrais faire deux brefs commentaires par ailleurs. Je pense que mes deux collègues ont insisté à juste titre sur la volonté de transférer vers la Chine quelque chose. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit, je suis même sûr que ce n'est pas le modèle du football européen, mais c'est en effet, comme l'a dit Mathieu Lorca, un certain savoir-faire. Je donnerai un exemple personnel. La dernière fois que j'ai été invité en Chine, c'était à l'Université des sciences du sport de Pékin. Et devinez pourquoi? Pour donner des conférences d'économie du sport orientées spécialement vers la régulation et la gestion du football professionnel. L'autre remarque très brève, c'est que vous devez savoir que s'agissant aussi bien des investissements directs à l'étranger de la Chine que les entreprises sino-chinoises fonctionnant et opérant seulement en Chine, elles ont un avantage compétitif considérable. Donc les clubs de football qui voudraient y mettre de l'argent ont un avantage compétitif considérable sur leurs concurrents des économies de marché plus libérales, c'est qu'on peut être géré ou gérer une entité quelconque, dont un club de foot pro, en fonction de ce que nous, les économistes, nous appelons une contrainte budgétaire lâche, c'est-à-dire une situation, pour les non-économistes, je l'explique, une situation dans laquelle je peux gérer tous les ans avec des déficits répétés et je serai systématiquement renfloué, soit par l'État, soit par une autre agence administrative.
Oui, c'est là qu'on a une différence de fonctionnement effectivement majeure. Je voudrais poser une dernière question à Mathieu Lorca. Est-ce que, puisqu'on parle de la Chine comme Eldorado ou planche de salut du football européen, est-ce que le public chinois pourrait aussi être une porte de sortie pour trouver de nouvelles ressources pour le football européen, à savoir tout simplement via la vente de droits télé au public chinois, au public asiatique peut-être plus généralement, qui est aussi très fan de football?
Oui, effectivement, c'est une solution, puisque la Ligue 1 est très en retard sur la vente des droits télé à l'étranger. On est quasiment à 70 millions d'euros, donc c'est 3 fois moins que la Bundesliga, 4 fois moins que le Calcio, 11 fois moins que la Liga et plus de 20 fois moins que la Première Ligue. Donc là, on a vraiment un retard à combler. Et du coup, le marché chinois est intéressant, parce que la Ligue 1 est le troisième championnat le plus diffusé en Chine, derrière la Liga et la Première Ligue. Avec là aussi des audiences qui ne peuvent qu'augmenter. La plus forte audience, c'est lors du Trophée des Champions 2019. On est à plus de 1,5 million de spectateurs chinois en direct, puisque le Trophée des Champions était déjà délocalisé 2 fois à Shenzhen. Donc c'est vraiment véritablement une opportunité à saisir.
Oui, on se quitte sur cette chanson malienne Cannes 2020 de Neba Solo. Merci beaucoup à nos invités. Merci Mathieu Lorca, vous intervenez sur le football en Chine. Je rappelle donc maître de conférence en économie à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Et merci beaucoup à nos deux intervenants, Vladimir Andreev, professeur émérite à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je rappelle Mondialisation économique du sport, paru chez Debuc en 2012, un de vos nombreux ouvrages. Et puis merci infiniment à vous, Pierre Rondeau, économiste aussi, co-directeur de l'Observatoire Sport de la Fondation Jean Jaurès, professeur à la Sports Management School et puis auteur, vous, de « Le foot va-t-il exploser pour une régulation du système économique du football » paru aux éditions de l'Aube 2018. Et bien, j'espère que durant cette émission, on aura apporté quelques réponses à cette vaste question. Dans un instant, c'est la Grande Table, présentée cette semaine par Maëlys Pessery.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture, des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.